Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session du colloque sur les Cultural Studies et la critique marxiste, intitulée « Les Cultural Studies à l'épreuve des féminismes ». Nous entendrons successivement Beverly Skeggs, professeure à Goldsmith University of London, en Grande-Bretagne, et Nassira Guenif, professeure à l'Université Paris 8, en France, chercheuse au laboratoire Experis. Toutes deux, au sein de la recherche féministe, sont connues pour insister inlassablement et parfois contre la recherche féministe elle-même, en tout cas contre certaines de ses tendances à isoler le genre, sur la nécessité d'analyser ce dernier en lien avec deux rapports sociaux ou de pouvoir privilégiés. La classe sociale pour Beverly Skeggs, la race pour Nassira Guenif. Même si toutes les deux articulent plus généralement le genre avec la classe sociale, la race, la sexualité notamment, elles ont en commun de nous interpeller sur la nécessité de ne pas oublier ces deux clivages hiérarchiques en particulier. Les pays où elles vivent et travaillent favorisent l'oubli. La Grande-Bretagne peut-être particulièrement en ce qui concerne la classe sociale et la France certainement particulièrement en ce qui concerne la race. Leurs propres trajectoires sont fortement marquées par ces deux axes de domination et par leur effacement politique et scientifique. C'est un ressort fondamental de leurs travaux. Elles se sont toutes les deux beaucoup expliquées sur cette question, parce que toutes deux inscrivent leurs travaux dans un cadre épistémologique dit du positionnement, féministe notamment, mais aussi au-delà, qui explicite les conditions matérielles dans lesquelles la recherche se développe et prend forme. C'est un cadre épistémologique qui prône de toujours lier théorie et politique dans l'analyse scientifique, qui met en lien l'expérience en lutte politique et la production du savoir et qui intime aux savoirs académiques d'être à l'écoute des savoirs produits en dehors de l'université et d'être en débat avec eux. Ce sera probablement des questions qui seront centrales ou en tout cas parmi les points importants de leur communication aujourd'hui. Enfin, leurs travaux respectifs se caractérisent par un ancrage premier dans l'enquête de terrain et dans le même temps par un travail théorique important, ce qui est loin d'aller de soi, même si c'est un poncif des manuels de sociologie. C'est pour ça que je le souligne. Elles font vraiment les deux et les deux ensemble. Beverly Skeggs est devenue en un an une véritable star en France, et je dis ça sans aucune ironie pour qu'il n'y ait pas de... pour moi aussi, je la cite désormais tout le temps et je ne suis pas la seule. Et elle était déjà connue et ses travaux sont des classiques comme on dit, mais évidemment la traduction en français des femmes respectables, classe et genre en milieu populaire aux éditions Agone en 2015 a fortement contribué à sa diffusion. Voilà, ça a été elle est devenue, je pense qu'elle remplit son approche qui pour la France est un peu dissonante et en même temps très convergente avec des modèles théoriques aussi mobilisés ici à l'intérieur des cultural studies mais aussi en dehors, remplit manifestement un vide, parce que si elle est à ce point mobilisée, c'est qu'elle nous dit quelque chose qui nous intéresse et qui est utile pour nous. Elle est également connue en France pour un ouvrage collectif consacré au féminisme après Bourdieu, co-dirigé avec Lisa Atkins. Mais bien sûr, je vous encourage à chercher plus avant et à aller voir plus avant ce qu'elle a écrit, parce qu'elle a écrit, beaucoup et des choses qui nous intéressent particulièrement, entre autres choses des travaux sur la télévision, qui sont évidemment parmi des objets importants au sein des cultural studies. Quant à Nassira Guenif, son enquête réalisée auprès de descendantes de migrants et migrantes nord-africains est elle aussi très célèbre. Elle est restituée dans un ouvrage désormais en poche aux éditions Hachette, intitulé « Des beurettes ». Elle est aussi notamment connue pour un ouvrage coécrit avec Éric Massé, et là vraiment du côté de l'interpellation de la recherche féministe sur la question de la race, intitulé « Les féministes et le garçon arabe », paru aux éditions de l'Aube, qui a des prolongements, de multiples prolongements, et très récemment, dans une contribution intitulée « The Colors of Feminism », les couleurs du féminisme, si je ne m'abuse, j'ai noté que le titre en anglais, dans un ouvrage collectif édité par Delphine Gardet et Cynthia Cross, qui a la particularité d'avoir été édité par les éditions Seismo dans les deux langues, en français et en anglais. Il est intitulé « Politique de coalition, penser et se mobiliser avec Judith Butler ». Il vient de sortir, si je ne m'abuse, voilà. Je leur donne désormais la parole pour parler de leurs rencontres et de leurs débats avec les Cultural Studies. Des Cultural Studies qui, ça je pense que tout le monde le sait dans cette salle, recouvrent des réalités historiques et institutionnelles très différentes en Grande-Bretagne et en France. Et on peut imaginer que la mise en commun de leurs expériences et de leurs réflexions en la matière permettra vraiment de saisir des enjeux importants et des effets de ces différences entre les deux pays. Elles prendront chacune 30 minutes pour exposer leurs propos, 25 minutes, 30 minutes. Je serai très dure sur le temps, afin que nous ayons ensuite une petite demi-heure d'échange collectif. We're listening to you. Thank you.
So I'm absolutely delighted to be
Alors,
here.
Je suis ravie d'être ici.
Really. So
c'est vraiment incroyable.
Maxime,
merci beaucoup à Maxime,
really,
Isabelle.
Really
merci, j'apprécie
Can we
beaucoup
start
ça.
With
je vais commencer avec quelque chose.
Can we have the slides?
Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, les slides? Ça, c'est la citation classique de Stuart Hall à propos de l'impact du féminisme sur les cultural studies. Je crois que les féministes continuent à faire du bruit dans les cultural studies. Je pense que c'est l'histoire que je continue à raconter. Donc la représentation, elle est partielle, vindicative. Comme une histoire principalement nationale, il est très difficile de raconter cette histoire de manière différente. Et donc pour expliquer certaines des questions qui étaient à l'œuvre à l'époque, je fais l'histoire d'une histoire de lutte, d'aliénation. Si on commence avec des positions disciplinaires, nous savons que dans les années 80, en Grande-Bretagne, où je commence, il y avait plein d'hommes marxistes qui étaient fermement établis dans la sociologie, les lettres, les humanités. C'était le féminisme qui, à l'époque, qui avait du mal, qui avait du mal à s'imposer conceptuellement. Et donc, en s'emparant de certains concepts, c'était une vraie lutte. C'était difficile, c'était tactique et stratégique. Les questions du harcèlement sexuel, par exemple, à compter des défis, comment comprendre le capitalisme et la patriarchie et le pouvoir des hommes, étaient difficiles. Donc les féministes sont encore engagées dans ces luttes, dans plein d'espaces, et c'est basé sur plein d'énergie, des corps, pour soutenir des recherches sur ces questions, sur tellement de fronts différents. Donc, les relations entre féminisme, marxisme et cultural studies, ce n'est pas qu'une histoire d'idées, c'est une question de représentation, l'insertion des corps dans des espaces et l'énergie incroyable qui est requise pour engager une lutte constante. Donc, l'espace est une possibilité, surtout pour la démocratisation de l'éducation dès les années 1980, qui rendait possibilité là. Le choix, quelque chose de nécessaire. Et donc la dérégulation néolibérale a ouvert un espace pour les choix des féministes. Et donc le choix d'étudier le féminisme était ouvert par les années 110, les campagnes de libération, plein de campagnes politiques, et puis de nombreuses actions politiques dans lesquelles les femmes avaient été impliquées. Donc je vais juste inclure deux slides en fait, qui vous montrent toutes les différentes choses qui se passaient à l'époque, dont vous savez, dont vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas tout examiner parce que c'est beaucoup de travail, mais au cœur de ce que je vais dire moi, il y a des tentatives par les conservateurs de détruire la classe ouvrière en Grande-Bretagne, ce qu'elle a réussi à faire en détruisant notamment les syndicats des mineurs lors des luttes des mineurs qui furent vraiment cruciales. Ce qui est aussi vraiment significatif, c'est qu'il y avait une grosse réception. Le Brexit va peut-être nous y ramener, hein, mais nous avions des semaines de 3 jours. Il y avait vraiment beaucoup de problèmes liés aux luttes sociales qui étaient. Et donc, il y avait vraiment une violence extrême de l'État. Donc ça, c'est le contexte qui, des temps turbulents dans lesquels moi j'ai entré, je suis entré dans l'université à ce moment-là. Je suis allé à une université d'élite, York. Mais cette université avait vraiment un département de women's studies qui était d'avant-garde. Et c'était très très poche, c'était très très snob. Et moi, ça me mettait mal à l'aise, mais j'étais curieuse. Et donc j'ai trouvé une maison dans le marxisme, dans la sociologie. J'adorais le marxisme et je tirais toute la sève possible de ces recherches. Et j'ai trouvé quelque chose qui était significatif pour moi et j'étais inspiré. Et j'ai plein de choses à dire sur ce que j'ai lu. Je connaissais déjà les fondamentaux du marxisme. Le capital ne peut pas exister sans la valeur qui est tirée du travail. Le travail n'est rien à moins d'être vendu. Et l'aliénation est la norme de la plupart des travailleurs. C'est pour moi, ça fait partie du sens commun. Donc, j'ai trouvé ma propre route dans l'université sur la question du travail domestique, qui à l'époque était très très forte dans les années 80, mais aussi sur la question de l'aristocratie, avec Perry Anderson, etc., E.P. Thompson, qui tous les deux étaient très utiles pour ma recherche future. J'ai aussi trouvé des pamphlets fantastiques de Selma James et Della Costa. C'était un appel aux armes féministes, et pour moi c'était très important. Et puis après, j'ai lu Michelle Barrett, l'oppression des femmes de nos jours. La recherche académique n'est pas moins, ne doit pas être séparée de l'action radicale. J'ai trouvé, je pensais que moi, à travers la pensée, qu'on pouvait transformer le monde. J'ai trouvé J'ai poursuivi ma recherche en marxisme féministe, notamment par la lecture de nombreuses lectures, et puis toute l'histoire sociale de la manière dont on stigmatise les femmes pour les échecs de la colonisation, pour les problèmes de la guerre, etc. En effet, on accusait les femmes de ne pas avoir offert des bons jeunes garçons puissants pour faire la guerre. Donc j'étais fasciné par ça. Donc ce qu'on voit, c'est que les écoles pour les mères furent établies pour que les femmes des classes ouvrières puissent produire une artillerie efficace, finalement, quoi. Et donc moi, je me suis concentré dans ma thèse sur ces questions-là. Moi, je me voulais comme une espèce de Paul Willis féminin. À l'époque, j'étais vraiment très impressionné par le travail féministe dans les usines. En termes d'exposition et d'accès, je ne trouvais pas que les cultural studies féministes, le numéro de Women Take Issue publié en 1976, je ne l'avais pas découvert assez tôt, et du coup, j'avais déjà découvert des éléments d'Angela McRobbie, etc. Il y avait un ouvrage de Terry Level, Pictures of Reality, qui n'apparaît pas beaucoup dans le panthéon des cultural studies et qui est vraiment crucial à mes yeux. Mais j'avais aussi trouvé une voie via l'anthropologie. Il y a un journal qui s'appelle Critique et Anthropologie qui a des travaux fantastiques et dont nombreux débats sur la propriété qui parlait de la propriété, la question de la nation et la reproduction sociale. Et ça fabriquait la manière dont je comprenais l'idée de culture, la culture qui devint plus tard les cultural studies pratiquées. La question de la reproduction sociale était pour moi centrale dans ce débat. Et donc les anthropologues féministes ne faisaient pas des usages simplistes du terme de reproduction. On a évidemment aussi Marx et Engels dans la reproduction sociale. Et comme il le note, c'est la première action historique est la reproduction des moyens de reproduire les moyens basiques de la reproduction, de la vie matérielle elle-même. Donc moi, j'étais assez intéressé dans la signification des liens entre le travail, comme Marx l'analyse. Et donc pour moi, ce qui m'intéressait, c'était comment le travail pouvait ne pas simplement être offert pour exister, mais pouvait être mis, rendu au capitalisme pour pouvoir permettre aussi des formes sexualisées et racialisées de reproduction. Ce que la compréhension anthropologique de la culture me permettait, c'était comment l'État, le développement de l'État, avait participé au développement de la vie domestique. On a perdu l'État, d'une certaine manière, dans la recherche. Quoi. L'État a joué un rôle très important dans sa recherche. Le développement du système domestique était très important dans l'analyse féministe parce que c'était la reconnaissance de la non-adaptation de la famille comme moyen de reproduction de la classe ouvrière. Pourtant, le coût de la reproduction sociale pour le travail et du capital sont transférés de l'État vers les familles elles-mêmes. Ce qui veut dire qu'il y a un très fort soutien idéologie pour ces éléments et ça, c'est-à-dire que l'idéologie devenait très très importante, notamment l'idéologie de la famille, notamment comme le montraient les historiens féministes, offrait plein d'éléments intéressants pour cette histoire. La question du maternalisme, le sacrifice de soi, la protection des enfants, le soutien des familles, tout ça, toutes ces questions furent développées dans l'investissement de lutte au sein des relations de reproduction sociale, qui étaient souvent contradictoires, qui étaient souvent informées par d'autres institutions du pouvoir mâle, les relations de propriété, la religion, des choses comme ça. Et donc des idées d'individualité qui participaient d'éléments de reproduction de la moralité, de la morale dominante. Donc l'idéologie et l'expérience vécue, c'est ainsi que j'approchais le féminisme marxiste ou le marxisme féministe pour comprendre la question de la morale et de la culture. Donc les cultural studies avec un grand C, un grand S, pour moi ça c'est ça. D'après Charlotte Brunson, il y a eu de grandes luttes entre le féminisme et le marxisme, notamment dans les cultural studies, en 1973 et 1974. Il y a eu beaucoup de luttes. Et je pense que là, c'est quelque chose d'important avec la citation précédente de Stuart Hall sur les cultural studies et les femmes qui ont chié sur la table des cultural studies. Il dit que l'intervention du féminisme fut spécifique et décisive. Elle fut une rupture. Je vous laisse lire ce qui est sur le slide, mais ce qui est crucial dans tout ceci, c'est que c'était peut-être sale, mais il s'agissait bien d'une réorganisation du savoir. En tant que féministe, nous, on a réinscrit l'objet, le sujet de la culture, on a réimaginé le pouvoir et les mécanismes par lesquels le savoir peut être accompli. Donc en mettant de côté la famille, l'État, l'idéologie, j'ai utilisé l'ethnographie pour comprendre la question gramscienne, pourquoi est-ce que les gens s'investissent tant dans les structures idéologiques qui ne sont pas dans leur propre intérêt. Néanmoins, comme on l'a déjà dit, l'État de l'idéologie et de l'analyse de l'idéologie dans les années 80 était dominé par l'analyse althusserienne. Ce qui voulait dire que l'idéologie travaillait à travers un processus d'interrelation. Dans mon ethnographie, je ne pouvais pas faire en sorte que ce travail fonctionne, ce travail althusserien. Pour moi, c'était l'inverse. J'utilisais plutôt ce que Gregor appelle une approche culturelle de l'idéologie. À partir de Marx, les gens font l'histoire, mais pas dans les conditions qu'ils ont choisies eux-mêmes. Donc, une méthode matérialisme dialectique dans laquelle le rôle de l'expérience est important, mais n'est qu'un seul facteur parmi d'autres facteurs, dans la totalité des autres facteurs et des autres pratiques sociales. Et ça, c'est hérétique. J'ai décidé de prendre des éléments chez Althusser, les appareils idéologiques d'État, et toutes les questions des positions des sujets, mais j'ai aussi bougé vers l'attention que E.P. Thompson apportait à la question des luttes sociales dans l'histoire. On s'attendait à ce que les étudiants à l'époque s'engagent et on leur demandait si vous aimiez E.P. Thompson, on considérait que vous étiez finalement minable si vous aimiez E.P. Thompson. Si on vous disait « Ah, votre travail ressemble à E.P. Thompson !» Bon, moi, ça me faisait plaisir, mais bon, pas tout le monde. Dans l'ethnographie que j'ai faite, la manière dont je l'ai analysé la culture, j'ai préféré, moi, la version de Richard Johnson. Donc j'ai utilisé sa version du marxisme. Ça, c'est un moment lorsque la plupart des manuels en sociologie étaient positivistes. Ils mesurent les choses avec des chiffres, quoi, grosso modo. Mais moi, j'ai lutté avec les étapes 4 et 5 que vous voyez sur le slide de Johnson, présenter le vrai mouvement réel. Faire de l'ethnographie, c'est problématique lorsque les concepts dont on dispose ne sont pas suffisamment explicatifs pour pouvoir analyser le réel qu'on a sous les yeux. On ne peut pas réduire la réalité à un appareil conceptuel comme ça. Donc, pour moi, c'est la créativité qui fut un élément important. Il fallait modifier les perspectives. Et faire la théorie, c'est impliquer aussi une forme de créativité. Donc il fallait que je comprenne les questions de classe, de culture populaire et la résistance des femmes à l'oppression qui m'a permis à moi de développer des idées sur la désidentification la reconnaissance de classe. Mais je reconnais que dès le début, Marx, très tôt, était finalement au centre de toutes les préoccupations et l'objet d'un certain culte, et le fait que moi je m'y attaque un peu finalement m'a rendu assez vulnérable. Je me rappelle qu'on m'a attaqué pour ne pas avoir lu Althusser en français, Marx en allemand, Gramsci en italien, etc. Voilà. Et puis... J'avais aussi le problème avec la manière dont les débats traditionnels marxistes, notamment dans l'arrogance très masculine d'E.P. Thompson, mais ces postulats sont faux, crierait Thompson à certains de ses élèves. Moi, je rappelle une conférence où tout le monde luttait, se balançait des noms d'oiseaux en disant tu as tort, et Thompson était au cœur de tout ça. Toutes ces formes de communication ferment des espaces pour l'engagement, donc il faut trouver d'autres manières de dire les choses. Donc le féminisme avait besoin d'autres types d'engagement. Et avec le féminisme, tout un monde interdisciplinaire s'est ouvert à moi qui permettait beaucoup de capital culturel. Les études culturelles impliquaient aussi beaucoup d'investissement. Et il fallait connaître les règles de l'engagement. C'est pas juste trouver des cadres politiquement, mais il fallait aussi, comme le dit Bourdieu de l'épistémé, il fallait savoir ce qu'on cherche, comment le mettre ensemble et comment y donner forme. Ces différentes demandes de ces trois différentes perspectives formaient et déterminaient les formes d'implication et d'engagement épistémologique possibles. Les débats publics autour du socialisme féministe étaient très importants pour moi, et ça enlevé beaucoup l'attention de plein d'autres éléments des débats spécifiquement marxiste-féministe qui avaient lieu dans les culture studies et la sociologie. Les interventions bien plus féministes dans les magazines comme New Statesman, Women's Voice, et notamment dans New Socialist, sur comment améliorer la vie des femmes. Là, il s'agissait de féministes socialistes qui étaient informés par un ouvrage de Lindsay Gold, si tu veux. Donc on proposait du savoir public et on était très attaqués. Et il y avait toute une décomposition de l'idée de classe à travers le marxisme. Donc Marx aujourd'hui, Marx fut très important pour établir le débat public. Il proposait de nouveaux temps, ce qu'on a appelé le nouveau révisionnisme, et notamment la retraite de position socialiste et l'abandon des concepts de classe et de conflit de classe dans la formation de structures politiques. Ça réfléchissait. Enfin, Gordon Brown et Tony Blair ont tous lutté pour l'abandon de formes de marxisme. Stuart Hall, lui, défendit l'idée que la classe était en train d'être recomposée, mais pas de la manière qu'il attendait dans Marxism Today. Et je crois qu'il regrettait beaucoup de ce qu'il a écrit à l'époque. Dans Marxism Today, il dit que la décomposition de la classe sous les gouvernements Thatcher fut poussée plus loin encore par les pensées de Chantal Mouffe, par exemple, qui fut très influente dans les culture studies. Elle rejetait l'opposition entre capital et travail en remplaçant le concept d'exploitation et par celui d'antagonisme et promouvant des mouvements sociaux basés sur les identités. Il maintenait que l'existence d'un discours externe appelé démocratie transformerait les différents sociomouvements dans un bloc social. Ils n'ont jamais spécifié comment ils développaient les changements et les équivalences entre les différences qui étaient impliquées dans ces différentes approches. Donc dans Marxism Today, Chantal Mouffe a développé l'idée de populariser la démocratie libérale. Moi, la question de la politique des identités, la consommation était très importante pour moi, et ça ne l'en parlait pas. Tout ça se développait lorsque... Donc on promouvait la démocratie libérale contre les syndicats, etc., mais avec une grande résistance, notamment par exemple l'incorporation des questions raciales, par exemple de sexuelles. Donc on ne savait pas trop quelle lutte politique allait avoir le plus d'impact dans ce qui se passait. Mais ce qui était vraiment au cœur de ce qui se passait, c'était la manière dont les tensions étaient affectées par... La tension était divergée, était écartée de la question du capitalisme, notamment. Donc, en se mettant ensemble comme des théoriciennes culturelles féministes et non plus simplement marxistes, moi je me suis débrouillé pour avoir un boulot permanent dans l'université de Lancaster en tant que chercheuse en Women's Studies. Donc, avec beaucoup de gens qui sont d'ailleurs ici, qui étaient déjà en sociologie, elles avaient proposé des travaux importants dans les questions de reproduction, de sexualité, critique du thatcherisme. Et donc, pour les culture studies féministes, dans les années 90, il y avait un moment vraiment fantastique qui permettait de faire beaucoup de choses. Et donc, c'est dans cet espace que moi, j'ai perdu un peu de mon lien avec Marx, parce que j'étais tellement excité par toutes les choses féministes qui se passaient. Je voulais comprendre tous les débats qui avaient lieu à ce moment-là, quoi. Et lorsque les maisons d'édition n'avaient aucun intérêt pour publier quoi que ce soit qui avait le mot « classe » dans le titre, et je me suis dit, d'accord, bon, bah, écoutez, à ce moment-là, je ne vais plus mettre « classe » dans le titre, je vais mettre « féminisme », et puis du coup, on se mettait à publier mes travaux sous prétexte qu'il y avait simplement le mot « féminisme » dedans. Bon. J'ai commencé à m'intéresser sur les discours, la féminité, la sexualité, et je commençais à débattre avec les théoriciennes féministes. Donc j'adoptais de nouveaux cadres pour pouvoir penser le féminisme. Donc lisant Bourdieu et en publiant Féminisme après Bourdieu, mais ce qu'on voulait appeler en fait Bourdieu après le féminisme, mais on nous a censuré pour ça. Et du coup, je me suis intéressé à des traits non pas à travers des formes homogènes, mais d'une manière beaucoup plus pragmatique. Je crois qu'il faut avoir une consistance épistémologique et de nombreux concepts ne travaillent pas ensemble, n'arrivent pas à fonctionner ensemble. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites en culture studies féministe et je ne vais pas vraiment m'intéresser à tout ça, mais le féminisme marxiste a disparu. Où est-ce qu'il est allé? Qu'est-ce qui s'est passé à la culture de classe? Où sont-ils passés tout ça? Donc derrière... Enfin, à côté de cette question de la culture, je veux juste parler de deux éléments rapidement sur les différents types de cultures qui sont évoquées de nos jours, que moi je trouve très 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 problématiques. D'abord, on a les cultural studies avec un petit C, un petit S, et ce fut promu pendant quelques temps dans le journal Culture and Society par exemple, mais souvent... qui s'intéresse beaucoup à la question de la consommation. Mais ce qui s'est passé, c'est que la concentration sur la consommation des modes de vie s'est imposée contre d'autres conceptions de la culture. Donc, on a la réplication de la distinction de Bourdieu dans plein de cultural studies, partout dans le monde anglophone. Et donc, on a quelque chose qui s'est passé à Manchester. On a des cultural studies sans capitale. On a aussi l'étude de la consommation dans ses différentes formes. Et ça devient... C'est très dépolitisé pour moi. Donc on n'étudie plus la classe, quoi. Et donc la culture a été réduite à quelque chose de dépolitisé. Et la classe a disparu de l'agenda, bien que le mot reste et apparaisse encore dans les écrits. Mais je crois qu'il faut qu'on pense à où est passée la classe. Où est la classe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? La plupart des discours des démocrates, des démocrates libéraux, disons, sont fondés et sont tout à fait cohérents avec le discours du FMI, etc. Donc on a vraiment une formation politique qui s'impose dans le monde académique, des formations politiques qui est inspirée par les institutions capitalistes, quoi. Et du coup, ça pose un gros problème. Donc pour conclure, il s'agissait pour moi ici... Un compte-rendu motivé. Je voulais exposer mes propres motivations dans l'histoire de l'épistémologie féministe. Donc c'est l'histoire d'une voie possible à travers le marxisme, le féminisme, la culture et la sociologie dominante. Ça montrait comment des concepts qu'on utilisait sont le produit de ce genre de détermination, toujours coproduites dialectiquement par différentes cultures, différentes institutions. Tout cela fut produit à travers des luttes, l'occupation d'institutions, d'espaces publics où on pouvait vraiment s'exprimer avec de nouveaux paradigmes. J'ai montré comment c'est difficile de rester avec la consistance épistémologique des fondamentaux du marxisme. Il faut bâtardiser, si vous voulez, combiner, modifier et défier les canons pour pouvoir expliquer et se faire son propre chemin. Ça dépend de ce qu'on essaie d'expliquer, plutôt que la pureté théorique, si vous voulez. donc je veux finir avec un petit document. Je crois que les féministes dans le monde universitaire, c'est comme une hydre avec beaucoup de visages, beaucoup de têtes. Ce que j'ai vu dans la Grande-Bretagne, c'est des recherches massives sur les formes de féminisme marxiste. Ça prend plein de facettes différentes dans la tradition des cultural studies. Des visages complètement différents. Mais par exemple, à Londres, là où il y avait donc la conférence sur le matérialisme historique, qui était très très masculine, maintenant présente de plus en plus des visages différents. Et donc il y a une nouvelle génération. Il y a aussi des travaux incroyables qui sont faits par des chercheurs noirs dans les États-Unis. Il y a aussi évidemment tout le monde queer et toutes ces nouvelles directions qui sont proposées par les combinaisons de ces différentes facettes. Donc il y a plein de nouveaux axes du marxisme, du féminisme, de la théorie queer, de l'antiracisme, etc. Donc il y a des traditions différentes des cultural studies qui offrent plein d'espaces institutionnels nouveaux pour des combinaisons entre féminisme et marxisme. Et je crois, aux marges du féminisme marxiste, du marxisme féministe, il y a des choses qui se passent de très intéressantes dans le monde juridique, dans la loi, dans l'histoire, la sociologie. On essaye de développer un manuel de marxisme dédié aux féministes. Donc, pour conclure, je crois que c'est un moment vraiment excitant. Il y a vraiment des choses qui sont en développement, et c'est toujours le cas finalement, tout est toujours en développement. Donc toujours dans des systèmes de connaissances qui permettent de combiner tous ces éléments, il y a une espèce d'histoire sale de dé- et de reterritorialisation, de recomposition, et donc le marxisme est de retour, le féminisme a une présence qui ne disparaîtra pas, et on continuera où on peut. C'est toujours en train d'accélérer, c'est moins aliénant, et puis il y a toujours ce défi du féminisme dans les recherches qui sont proposées de nos jours. Merci.
Thank you so much. Next, Nassira.
Merci. Je vais passer au français, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Même si je pense qu'il y a une grande partie de ce que je vais être amenée à dire qui risque d'être non pas perdu dans la traduction, puisque effectivement il n'y aura pas de traduction vers l'anglais. Alors je tiens tout d'abord à remercier Maxime Servulle pour m'avoir proposé de venir prendre part à cette conversation, même si je ne suis pas connue, et pour de bonnes raisons, pour être une marxiste de quelque sorte que ce soit. Ça n'est pas mon entrée principale. Je parle plutôt marxien que je ne discute les théories marxistes, on va dire ça comme ça. Donc c'est plus une sorte de langage qui court tout au long de ce que je peux être amenée à décrire et à proposer en termes de réflexion. Et puis par ailleurs aussi, les cultural studies, même si elles sont un de mes centres d'intérêt importants, ne sont pas un territoire que j'explore d'un point de vue théorique, mais plutôt que je pratique à travers toute une série d'objets et toute une série de rencontres que j'essaye de ménager. Donc c'est précisément à ces rencontres-là que je vais essayer de m'intéresser et de vous intéresser, en essayant de voir en quoi est-ce que les cultural studies et les mobilisations féministes en France ont quelque chose à se dire dès lors qu'elles en passent par ce tiers absent, qui est celui de l'épreuve des racisés ou des populations qui sont soumises à des structures de racialisation, pour le dire comme ça. Alors, je procéderai en trois temps. Je vais d'abord faire un retour sur un passé qui ne passe pas. C'est une thématique assez récurrente dans l'imaginaire et dans les mythologies françaises. J'en choisirai une qui est tout à fait anecdotique par bien des aspects, mais qui me parle depuis longtemps et que j'essaie de débrouiller d'une certaine manière, et dont j'essaie de faire le compte-rendu détaillé. Alors, ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui, mais c'est, à mon avis, un point de départ intéressant pour comprendre en quoi est-ce que les modalités et les formes de coalition qui, aujourd'hui, pourraient se jouer aussi bien au sein de l'université que dans le monde politique, en termes à la fois féministes et en termes de lutte de classe, participent d'un horizon qui est encore à construire et non pas de quelque chose qui serait une réalité avérée et éprouvée, expérimentée dans le contexte français contemporain, y compris dans les derniers mois de ce que nous sommes en train de vivre, donc j'y reviendrai. Alors, introduction, donc, tout commence par un malentendu qui ne se dissipera pas de sitôt, car pour tout dire, dans les vastes espaces de la routine universitaire, il persiste et continue de produire ses effets d'invisibilisation et d'étendre son nombre porté sur l'espace encore à viabiliser de mobilisation subalternative, soit pas blanche. Alors je reviendrai sur ce terme de pas blanche, puisqu'il y a un terme qui commence à prendre une certaine, avoir un certain auditoire et à être audible, qui est celui de non blanche. Donc j'essaierai d'établir une distinction entre ces deux dimensions. Ce malentendu a un nom propre, que Beverly Skeggs d'ailleurs a évoqué, c'est celui de Bourdieu. Il y a beaucoup à dire sur la façon dont son impulsion, celle de Bourdieu, de l'étude de la culture, savante, dominante, ordinaire, moyenne, distinctive, élitiste, a occulté la montée en puissance radicale perturbatrice d'une culture dont les hybridations et les embardées ne faisaient que commencer. En faisant traduire « La culture du pauvre » de Richard Hogarth, ou plus exactement en ne faisant traduire que « La culture du pauvre », Pierre Bourdieu balise le champ qui devra être labouré et désigne par défaut, par une absence appelée à durer, ce qui ne pourra pas être exploré au-delà des limites autorisées. Voici comment quelqu'un qui a pris langue avec lui et avec qui ça s'est plutôt mal passé, voici comment donc De Certeau déplie les causes d'un délit et éclaire ses conséquences dont nous ne sommes pas sortis. Par analogie, je tenterai de montrer que l'impensé de la race, des femmes immigrées que je propose de renommer femmes de couleur, en prenant au sérieux l'autonomination qu'elles pratiquent, persiste à hanter nos vies et nos pratiques analytiques et militantes. Alors ceci, je vais donc m'appuyer sur un extrait de mon habilitation qui me semble résonner avec ce que cette session propose de mettre en discussion et en perspective. Et j'apprécie tout particulièrement la manière dont Beverly Skeggs a parlé à la première personne en rappelant que c'est d'abord tout cela une affaire personnelle. Donc De Certeau met en perspective la stratégie, donc là je reprends cet extrait qui en fait fait partie d'un chapitre introductif de mon habilitation qui s'appelle « Une sociologie en douce », qui montre bien qu'il y a bien des manières de faire de la sociologie. Donc la mienne était plutôt du genre clandestine. Alors De Certeau met en perspective la stratégie entre guillemets du chercheur et celle des pratiquants qu'il observe sur différents terrains ethnographiques, montrant qu'en fait Bourdieu emprunte aux célibataires béarnais comme aux femmes et hommes kabyles leur tactique entre guillemets pour remettre sur ses pieds l'ordre du monde matériel et conceptuel qu'il convient de préserver pour le rendre viable, praticable, dominant donc. Cela laisserait penser que Bourdieu a trouvé dans ses observations au plus près l'outil qu'il retournera contre elle, pour en effacer la puissance agissante et pensante désormais réservée uniquement aux chercheurs, seuls savants de la réalité. Il pose ainsi la question du degré de dissimulation nécessaire en cette entreprise, à laquelle il propose une réponse résumée dans ses grandes lignes ci-dessous. C'est Bourdieu qui est cité avant que De Certeau ne reprenne la main. Donc là, je cite Bourdieu tel qu'il est cité par De Certeau. C'est parce que les sujets ne savent pas, à proprement parler, ce qu'ils font, que ce qu'ils font a plus de sens qu'ils ne le savent. Ça, c'est une citation très classique, presque un pensif de Bourdieu. Mais à l'époque où De Certeau met ça en discussion, on est encore au début de la montée en puissance de la gloire bourdieusienne, pour le dire comme ça. Alors, que nous dit De Certeau sur cette citation qui sera évidemment par la suite éminemment commentée? Docte ignorance, nous dit De Certeau, donc habileté qui ne se connaît pas, L'inconscience du groupe étudié était le prix à payer, le prix qu'il devait payer pour sa cohérence. Une société ne pouvait être un système qu'à son insu. D'où le corollaire, il fallait un ethnologue pour savoir ce qu'elle était sans le savoir. Aujourd'hui, l'ethnologue n'oserait plus le dire, sinon le penser, entre parenthèses. Comment se fait-il que Bourdieu s'y compromette au titre de la sociologie ? Ces textes de Bourdieu fascinent par leurs analyses et agressent par leurs théories. En les lisant, je me sens captif d'une passion qu'ils irritent en l'excitant. Chaque phrase mériterait de très longs commentaires que je ne ferai pas aujourd'hui. Mais ensuite, je me déplacerai du côté des questions de féminisme et de race. Ils sont faits de contrastes. Examinant scrupuleusement les pratiques et leur logique, d'une façon qui n'a sans doute pas d'équivalent depuis Mauss, il les ramène finalement à une réalité mystique, l'habitus, destiné à les ranger sous la loi de la reproduction. Je vois qu'il y a quelques croisements avec des choses qui ont pu être dites. Malheureusement, we lack the language in order to bring together what you said and what I'm saying now. I'm sorry about that. Les descriptions subtiles des tactiques béarnaises ou kabyles débouchent soudain sur des vérités assenées, comme s'il fallait à une complexité si lucidement poursuivie le contrepoint brutal d'une raison dogmatique. Contraste aussi du style retors et labyrinthique dans ses chasses et massivement répétitif dans ses affirmations. Étrange combinaison d'un « je sais bien », entre guillemets, cette prolifération rusée et transgressive, et d'un « mais quand même », il doit y avoir un sens totalisant. Pour sortir de cette agressante séduction, je suppose à mon tour que dans ce contraste doit se jouer quelque chose d'essentiel pour l'analyse des tactiques. La couverture que la théorie, entre guillemets, de Bourdieu jette sur elle, comme pour en éteindre les feux, en certifiant leur docilité, doit nous apprendre quelque chose de leur rapport à toute théorie. Ces tactiques, par leurs critères et leurs procédures, utiliseraient de manière si autonome l'organisation institutionnelle et symbolique qu'à les prendre au sérieux, la représentation scientifique de la société s'y perdrait, dans tous les sens du terme. Ces postulats, ces ambitions n'y résisteraient pas. Je continue donc, toujours de Certeau. Je vous prie de m'excuser pour cette longue citation, mais ça va nous permettre d'en finir avec les grands hommes. Mais cette rentrée en hâte, dans la rationalité académique, n'est-elle pas l'indice qu'il connaît, en italique, lui, le danger, peut-être mortel, que font courir au savoir scientifique ces pratiques trop intelligentes ? Combinaison, lointainement pascalienne, entre l'effritement de la raison et une foi dogmatique. Il en sait long sur le savoir scientifique et sur le pouvoir qui le fonde, tout comme sur ses tactiques dont il rejoue les ruses avec tant de virtuosité dans ses textes. Il enfermera donc ses ruses derrière le grillage de l'inconscience et il le déniera par le fétiche de l'habitus, ce qui manque à la raison pour qu'elle soit autre chose que la raison du plus fort. Il affirmera avec l'habitus le contraire de ce qu'il sait. Tactique populaire traditionnelle et cette protection, hommage rendu à l'autorité de la raison, lui vaudra la possibilité scientifique d'observer ses tactiques en des lieux soigneusement circonscrits. Si cela était vrai, mais qui pourrait le dire ? Il nous en apprendrait autant par son dogmatisme que par ses études. Le discours qui cache ce qu'il sait, au lieu de cacher ce qu'il ignore, aurait précisément valeur « théorique » entre guillemets, en tant qu'il pratique ce qu'il sait. Il serait l'effet d'un rapport conscient avec son inéliminable extériorité et non pas seulement le théâtre d'une élucidation. Rejoindrait-il ainsi la « docte ignorance », entre guillemets, accusée d'être savante à son insu, justement parce qu'elle sait trop ce qu'elle ne dit ni ne peut dire ? Point d'interrogation, et là j'en finis avec la citation. Affaire d'homme, me direz-vous, et vous n'aurez pas tort. Mais comme ils sont loin d'avoir capitulé et de s'être rendus à la raison de leur insatiable volonté de posséder la raison et ses dépendances, cette conversation entre hommes est instructive sur les points d'achoppement et les nœuds de résistance que continuera de rencontrer cette forme de lutte féministe pas blanche. Parce qu'elle prend au sérieux l'imbrication entre de multiples formes d'existence, que je ne rappellerai pas par commodité de langage genre, classe, race, n'est-ce pas, qui sont devenues une sorte de litanie que nous répétons à l'envi, cette séquence de lutte encore en cours d'impulsion a tout à gagner à comprendre comment les grands hommes blancs se sont affrontés sur ce terrain des enjeux politiques de la culture. Or, il me semble que nous n'avons pas fini de comprendre ce qui se jouait à ce moment-là dans ce dialogue qui n'a pas eu lieu, puisqu'il n'a pas eu lieu, et entre tous les dialogues qui continuent de s'imposer et de parasiter, en quelque sorte, à la fois les analyses et les luttes qui pourraient en découler. Fût-elle qu'habile ou parfaitement insignifiante, cette culture sans qualité, mais ô combien qualifiante, pour qui sait la traduire et la tamiser, comme la lumière ou encore la farine, reste à investir en tant que terrain de lutte et de confrontation théorique et politique. Alors, à partir de là, je vais essayer, non pas de refaire ce que j'ai pu faire pour essayer justement d'investir ce terrain de confrontation théorique et politique, mais je vais m'intéresser à ce qui, aujourd'hui, dans le cadre des luttes, rétroagit et réfléchit ce qui est en train de ne pas advenir dans le champ universitaire. Pour cela, je vais m'intéresser à un certain nombre d'événements que je vais décrire dans une certaine mesure et sur lesquels j'essaierai de porter un regard alors rétrospectif, c'est un bien grand mot puisque c'est en train de se faire, mais à tout le moins essayer de livrer quelques éléments de compréhension de ce qui est en train de se jouer. Donc si l'on admet effectivement, comme le dit, me semble-t-il très justement, De Certeau, parlant de la façon dont Bourdieu réduit au silence et à l'insignifiance de larges segments de ce qu'il va chercher à étudier ou à faire étudier, puisqu'au fond, la question, ce n'est pas tellement que Bourdieu lui-même, comme tout le monde dit maintenant, n'est-ce pas ? C'est une espèce de syndagme qui dit tout. On ne dit plus Bourdieu, on dit Bourdieu lui-même, n'est-ce pas ? Comme si c'était de l'ordre de l'idiosyncrasie et d'une sorte d'ontologie qui s'autosuffisait. Donc, dès lors que, effectivement, il ne s'agit pas simplement de s'intéresser à ce que le sociologue Bourdieu a pu dire, mais de considérer le vaste domaine et le vaste champ d'influence de l'ensemble de sa production et donc de sa reproduction, comme on ne peut pas faire l'économie ou qu'on ne peut pas définitivement prendre congé de cette approche-là, parce qu'elle a littéralement envahi tous les espaces de l'académie et de l'université en France, il importe de voir comment est-ce que, hors de ce champ-là, autre chose est en train de se jouer. Donc cette autre chose qui se joue pourrait effectivement être nommée, non pas non-blanche, pour reprendre les termes qui y sont de façon en quelque sorte approximative ou pour essayer de faire justice aux différentes tentatives qui aujourd'hui existent dans le champ militant pour réfléchir à la façon de se nommer soi-même dans le cadre de logiques d'oppression. J'aurais plutôt tendance à préférer le terme soit de couleur, soit pas blanc, c'est-à-dire qui prend congé définitivement de tout ce que la blanchité, la blanchitude, la blancheur et les pratiques de blanchiment nous imposent en quelque sorte et exigent que ça soit bien entendu. Donc prendre ses distances avec cela et considérer effectivement ce monde pas blanc, ça consiste précisément à admettre les façons éminemment polluées et impures dans lesquelles ces collectifs sont en train de se dire. Alors la pollution majeure qu'introduisent ces collectifs, et j'en citerai un certain nombre, consiste à nommer la race, non seulement la nommer, mais la faire advenir, y compris en l'incarnant à travers toute une série de pratiques corporelles, de pratiques d'apparition, de visibilité, de mise en visibilité et d'expression discursive, si, y compris avec des mégaphones, hein, autrement dit en essayant le plus possible de faire du bruit. Donc cette perspective-là, aujourd'hui, elle nous amène, peu ou prou, à prendre la mesure de l'espace resté complètement vide, vacant, dans le contexte universitaire, sur ces questions-là. C'est-à-dire la rareté des enseignements qui portent sur la question de la race, leur caractère souvent soit optionnel, pour le dire dans les termes des maquettes, soit marginaux. Ces enseignements n'ont pas vocation à être diffusés avant quelques années aux étudiants et aux étudiantes, parce que ça risquerait de heurter les sensibilités, à tel point que lorsque certains textes... Alors j'ai fait l'expérience cette année, j'ai donné vraiment ce qui me semblait être le minimum dans le cadre d'une introduction à la réflexion sur la question des langues et des langues de l'autre. J'ai donné un extrait d'un texte de Frantz Fanon, qui est quasi introductif, hein, de Peau noire, masque blanc, et qui parle de la façon dont parler, c'est exister dans le regard de l'autre. Ce texte, en fait, a été distribué donc, à des étudiants de licence, et je me suis aperçue en fait, qu'il avait été pris par d'autres étudiants que ceux auxquels il était destiné, parce que, visiblement, ça semblait être un peu étrange de trouver ça sur une table de secrétariat mise à disposition des étudiants. Alors, non seulement ça a été pris par d'autres que ceux auxquels j'avais destiné, mais du coup, ça a proliféré de façon complètement incontrôlée dans le cadre de cette formation de licence en sciences de l'éducation. Donc, j'en tire une conclusion, c'est que nous sommes dans un état de frustration et de stérilisation, en quelque sorte, y compris des bibliographies que nous fournissons aux étudiants, à tel point que certains textes, alors là je ne parle que de Frantz Fanon, je ne vous raconte pas la suite, n'est-ce pas, tout est à peu près sur le même mode, de la gestion en quelque sorte de la rareté. Nous sommes donc dans un régime de rareté du point de vue de l'ensemble de ces connaissances et de leur diffusion. Donc contre quoi les étudiants doivent être protégés, les étudiantes particulièrement, c'est la question de, en quelque sorte, s'affronter à la race et, pour les dire dans les termes qui pourraient être celles et ceux des étudiants d'ailleurs, ce serait de s'affronter à sa propre race et de savoir en quoi est-ce qu'elle est aujourd'hui articulée à toute une série d'oppressions. Donc, pour illustrer mon propos, je vais citer deux exemples de ce type de démarche qui, en quelque sorte, n'opère pas la jonction avec le monde universitaire pour les raisons que je viens d'expliquer. Le premier exemple concerne une marche qui a été initiée il y a un peu plus d'un an maintenant et qui s'est déroulée en octobre 2015, le 31 octobre, et qui s'appelait la marche des femmes pour la dignité et contre le racisme. En fait, cette marche avait pour instigatrice uniquement des femmes qui, justement, pourraient se dire pas blanches ou qui se disent racisées. C'est-à-dire qu'elles ont d'emblée constitué le périmètre des luttes en considérant que, non pas qu'il fallait exclure les femmes blanches, ça peut être perçu comme ça, mais qu'il fallait surtout rassembler les femmes pas blanches. C'est-à-dire qu'il fallait absolument s'assurer que toutes celles qui aujourd'hui considèrent qu'elles ont quelque chose à dire sur des luttes qui seraient décoloniales, hein, donc qui seraient des luttes hors du périmètre viabilisé à la fois de la pensée orthodoxe et aussi des luttes orthodoxes, devaient pouvoir se réunir pour concevoir des formes de lutte et d'affirmation visible dans l'espace public de leur lutte qui ne dépendent pas ni d'un répertoire, ni d'une vulgate ou d'une orthodoxie qui serait celle de la gauche féministe. Donc cette marche a été essentiellement mal vécue par la gauche blanche hégémonique et, pour tout dire, élitiste, hein, qui continue à agir sur un mode qui est celui de la stérilisation des luttes, notamment antiracistes. Mais elle a aussi été un facteur de perturbation dans une longue généalogie qui remonte jusqu'aux années 70, et qui est celle qui renvoie au malaise des féministes à la fois historiques et radicales. Je ne parle même pas des féministes libérales ou des féministes d'État, les féministes républicaines, les féministes universalistes abstraites. Celles-là sont effectivement particulièrement heurtées par ce genre de choses, mais la discussion n'est pas à engager avec elles d'une certaine manière. Mais les féministes radicales qui sont celles qui ont porté en quelque sorte le mouvement féministe jusque dans ses traductions réformatrices se sont inquiétés, en quelque sorte, de la division des luttes au sein des mouvements féministes, dans la mesure où parler de féminisme décolonial ou parler de féminisme de femmes racisées, ce serait introduire des formes de division qui seraient irréductibles. On pourra en discuter, mais il me semble que c'est aujourd'hui que la question se pose de savoir si nous nous inscrivons dans une sorte d'unilinéarisme ou d'évolutionnisme unilinéaire au regard de ce que Beverly Sykes vient de présenter, hein, comme si en fait il nous faudrait encore deux ou trois générations pour rattraper le retard dans lequel nous nous trouvons, ou si il s'agit de construire une propre trajectoire qui soit viable dans le contexte de ce qu'est la France universelle. Alors, l'autre exemple que je citerai rapidement avant de conclure, c'est celui d'étudiantes au sein de l'Université Paris 8 qui, à la faveur de la mobilisation contre la loi travail, que certains et certaines d'entre vous ont peut-être suivi, ont décidé de se constituer en groupe non mixte à raison du fait que étudiants et étudiantes considéraient qu'ils étaient racisés dans les assemblées générales et qu'ils étaient invisibilisés dans les prises de parole qui devaient constituer le cœur de la mobilisation. Alors, alors je vous renvoie à des textes qui circulent actuellement, hein, qui nous permettent de comprendre de quoi ils retournent sur ces questions-là. Et ce que ça révèle, c'est que les personnes qui se sont mobilisées l'ont fait au sein de l'université. C'est-à-dire qu'à la fois, elles ont été alimentées du point de vue théorique pour penser ces questions-là, mais elles se sont surtout appuyées sur leur expérience sociale, individuelle et collective, pour considérer qu'en fait, elles n'étaient pas en capacité de faire valoir l'ensemble des conditions et des situations d'oppression qui méritaient d'être incluses dans la lutte en cours. Et c'est donc cette sorte de malaise profond, voire de caractère scandaleux de cette, non seulement de ce groupe, mais de ce qu'il a suscité dans la discussion publique, qui aujourd'hui permet de prendre la mesure de tout ce qui reste encore à faire du point de vue de la rencontre possible entre des luttes féministes, des luttes qui parleraient marxien ou marxiste, peu importe, et qui parviendraient enfin à comprendre que la race n'est pas une sorte de domaine annexe au sein de la lutte entre différents groupes oppresseurs et opprimés, mais bien le soubassement fondamental de leur mise en œuvre. Alors, je finirai par un bref extrait qui vient du texte que Isabelle Claire a évoqué tout à l'heure, qui a été publié plus tôt cette année, et que j'avais écrit en 2012, en fait, dans le cadre de la première impulsion de ce projet. Il permet aussi peut-être de prendre la mesure de la façon dont j'ai une place, parmi d'autres, dans cet effort de lutte qui est en cours. L'art de la coalition a à voir avec additionner et soustraire, multiplier et diviser, gagner et perdre, revendiquer et renoncer, et finalement s'exposer à la dispersion et la division. En cours, nous pouvons être amenés à perdre notre base commune, notre sens de la gravité, tout comme nous pouvons nous cramponner à un autre centre de gravité, à un sentiment de se retrouver, et donc d'inventer de nouvelles façons d'appartenir et de devenir. Nous pouvons être amenés à un moment donné à devoir confier notre souveraineté à quelqu'un d'autre, à la déléguer à quiconque est autorisé, habilité et reconnu pour avoir une meilleure façon de comprendre, de formuler et d'exprimer cette cause qui nous rassemble. Dans ce cas de figure réside le danger de disparition et de dissolution, et plus précisément le risque de futures voix hégémoniques parlent à notre place, et donc le risque d'être mal comprise et réduite à l'impuissance. Toute tentative de coalition recèle en son sein son propre échec, car elle mêle de façon intrinsèque des potentialités et des impossibilités, des frontières et leurs violations. À l'abri d'une politique de la dépossession et du détournement qui traduit une politique intentionnelle de la division et de la dispersion, se détache une invitation à ouvrir et à explorer une autre voie qui ne demande qu'à être reconnue. Cette voie met en lumière des sujets, des actions et des incorporations subalternatives qui, par des modes et moyens variés, nous mènent vers des places publiques géographiques, physiques et virtuelles. Pas tout à fait subalternes, car elles reposent sur une puissance d'agir potentielle qui s'étend au-delà des barrières de couleur, pas encore alternative, car ce sens de la place et de l'espace lui fait défaut et reste à construire. Une coalition subalternative se dessine et semble s'assigner des tâches inhabituelles. Il s'agit alors de reformuler les questions et les problèmes afin de perturber les critères qui définissent les suspects habituels, de dépasser les limites de la croisade vertueuse, d'enfreindre les frontières ennemies et de s'emparer d'une autre dialectique de la démocratisation et de l'émancipation. Tout ce projet est ancré dans la perspective d'en finir avec la guerre. Je vous remercie.
Alors, il nous reste un peu de temps pour discuter. On doit essayer vraiment de quitter la salle à 13h. Donc voilà, on attend vos questions. Qui se lance ?
Je peux le faire. Je peux le faire, si tu veux. Je crois que c'est ce que tu disais, mais... Ton incroyable voyage à travers cette histoire que j'ai vraiment apprécié. Ma question, c'est, je crois que je suis d'accord avec ta manière de caractériser de la fin, qu'il y a ce retour vers le marxisme et l'intérêt dans le marxisme, à la fois théoriquement et politiquement. Donc un intérêt pour défier les formes contemporaines d'exploitation capitaliste et leur formation et dispositif. Ma question, c'est, est-ce que tu suggères que, est-ce que j'ai raison d'avoir interprété ça comme ça, est-ce que tu suggères que ce retour à l'intérêt dans le capitalisme n'est pas vraiment un retour à la classe ? Donc on parle beaucoup de néolibéralisme, la formation, les appareils, les reformations du capitalisme, mais on a l'impression que la question de la classe disparaît parfois de ces interrogations, n'y est plus. On a l'impression que parfois la classe ne fait pas partie de ce débat. Est-ce que c'est ça que tu dis ? Oui. C'est bien le cas. Et moi je suis très ambivalente sur cette question parce que d'un côté, certaines des très bonnes analyses récentes n'ont pas nécessairement besoin d'avoir la question de la classe dans son analyse. Elle peut s'intéresser à d'autres choses assez fantastiques. C'est quand elle utilise un discours pour complètement exclure la question de la classe et comment elle existe. C'est là qu'il y a un problème. C'est là que ça m'inquiète. Donc, tous les débats autour... Comment les bourgeois, le sujet bourgeois, souffrent dans les nouvelles conditions. C'est une exclusion totale de la manière dont fonctionne l'austérité. Et l'intérêt pour l'austérité aujourd'hui est en train de gagner du côté du capitalisme sur la base de la classe. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment la classe devient exclue via l'accent mis sur la consommation, sur l'inégalité. Et l'utilisation du concept d'inégalité, par exemple, le magazine Economiste n'arrête pas de parler d'inégalité comme problème, mais ne parle pas d'austérité ni de classe. Elle parle de différence. Ça nous rappelle des débats féministes des années 80, lorsqu'on ne parlait pas de classe non plus dans les questions féministes. Ou alors, quand on parle de la diversité dans les politiques européennes, elle ne parle pas de classe. Donc moi, je suis très contente avec le retour à l'analyse du capitalisme. Mais je fais très attention à ce qui est exclu dans ce débat. Voilà. Très bien.
Une autre question ? Donc, tout d'abord, je voudrais encore vous féliciter pour ces deux excellentes interventions. Non seulement c'est excellent, mais ça fait du bien dans un espace comme celui-ci, au Centre Pompidou. Donc, bravo. Maybe I could switch in English. It could be a way for... No? What do you prefer? Non, je ne peux pas aller en français.
Ce que vous préférez. Moi, je peux traduire après. Ou je peux traduire ce que vous dites en anglais, en français.
Donc je voudrais revenir sur ce que vous disiez, Nassira, sur l'éducation, l'université, la, ce qui n'est pas en train d'advenir, et je pourrais continuer et contribuer aussi à cette analyse en parlant du point de vue des écoles d'art, puisque moi j'enseigne, je suis professeure en école d'art, et en effet parler des termes, moi j'utilise le terme black puisque j'utilise le terme britannique dans le contexte de l'enseignement, il y a non seulement des appels, hein, des nécessités, et des désirs de lecture de la part des étudiantes et étudiants, mais il y a aussi beaucoup de résistance. Donc j'en viens à ma question, puisque finalement, je crois que le seul nom de black féministe qui a été prononcé est celui d'Angela Davis. Je voulais savoir, eh bien, qu'en est-il des corpus black féministes en Europe, à la fois dans le contexte des cultural studies des années 80, et puis dans le contexte actuel en France.
You should say it to everybody with the mic, so everybody
in English.
Yes.
Yes. So then everybody.
Because people, some people listen French.
So this. Thank you. This was a question by someone who teaches in art schools, and she often uses the notion of black that finds a certain echo within her students who have desires of readings and of knowledge concerning questions of feminism and the question of race around that term, but who also oppose forms of resistance. And so the whole question that she had was, the only black feminist that she actually heard during the presentations was the name of Angela Davis. She wanted to know what was the state of black feminism in Europe, on the one hand, but also within cultural studies in the 1980s and in France nowadays.
So I'd say some of the major challenges.
Parmi les défis principaux dans le féminisme et dans le marxisme sont arrivés de façon très différente. Lorsque j'essaie de me rappeler, lorsque je me suis intéressé pour la première fois sur le racisme, c'était le racisme dans des régions blanches où on s'attend tous à ce que nous, on parle de racisme, et donc on allait à l'école et on faisait de l'antiracisme. Donc moi, je me suis intéressé à cette question via le groupe d'éducation, le sous-groupe d'éducation du CCCS, qui était très pratique d'un point de vue politique. Il n'y avait pas d'intérêt à la connaissance, il n'y avait pas un usage pratique. Voilà. Donc il y avait beaucoup de débats sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire dans les écoles. Il y avait plein de journaux importants comme School and Culture ou Gilroy et compagnie écrivaient. Il y avait beaucoup d'interventionnisme quoi, dans ces journaux. Donc la question de l'éducation et de l'intervention a une histoire parallèle dans tout ceci. L'idée d'intervenir est issue de tout ça, donc apprendre comment intervenir. Et les défis des années 80, politiquement, pour nous, les gens comme Errol Lawrence, il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites autour de la musique noire, par exemple. Donc il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans différents groupes, avec différentes histoires. Les défis, aujourd'hui, je dirais, sont bien plus divers. Et je crois qu'il y a, à part les chercheurs américains que moi j'ai donnés comme ça dans mes slides, qui cherchent à apporter l'antiracisme, le capitalisme, la sexualité dans leur recherche et le gender d'une façon très intéressante dans leur recherche, moi je crois que, en Grande-Bretagne, mais bon, d'autres peut-être ne seraient pas d'accord, il y a bien plus de petites zones d'activité. On lutte sur des points de vue et des causes très très spécifiques. Et je crois que ces petits silos, ces petits espaces s'agrandissent, mais sont bien plus différenciés aujourd'hui. Donc, les gens auxquels je référence, c'est les gens dont j'ai parlé pendant ma présentation.
work on quite different. Well, she's left now. But we work on quite different issues.
Donc on travaille concernant d'autres questions que celui d'autres chercheuses féministes marxistes.
The MA that we taught to include lots more black.
Donc, dans le master qu'on a créé, il y a bien, beaucoup de plus en plus de féminisme noir qui est intégré. Mais finalement, il y a plein de petits espaces et on arrive à se retrouver sur des questions bien spécifiques. Quoi. Mais donc, il y a une extension de ces groupes et une intensification de la diversification.
Je pense que ce qui est sans doute. Il y a deux aspects à votre question qui auraient à voir avec. Constituer une bibliographie ou une bibliothèque avec des féministes noires ou non blanches ou pas blanches, enfin quelle que soit la manière dont on les nomme, ou racisées ou minoritaires, c'est toute la diversité du vocabulaire en France qui montre à quel point c'est compliqué. Ce serait sans doute simple si on prend des textes qui sont traduits vers le français et qui viennent du monde anglophone, hispanophone. Ça, c'est une chose qui peut encore se concevoir. La question, c'est si aujourd'hui vous vous intéressez à des auteurs qui soient à la fois femmes ou assimilées, peu importe, hein, parce que c'est aussi une catégorie qui est un peu enfermante et assez essentialisante d'une certaine manière, et qui font valoir un point de vue qui serait un point de vue situé, effectivement, avec une sorte d'épistémologie, finalement, qui traverserait aussi leur pratique. Ce qu'on observe, c'est que finalement, il y en a assez peu, et qu'elles ne se qualifient jamais comme telles. Et ça parce qu'effectivement, il y a une exigence universitaire qui fait que se qualifier comme telle, c'est se disqualifier. Donc, autant dans le monde de l'art, vous trouverez des artistes noirs qui revendiquent, qui assument complètement le fait de ce que leur histoire fait à leur art. Autant dans la littérature, c'est parfaitement admis. Pour ne prendre qu'un exemple, Marine Diaye, qui est devenue en quelque sorte une sorte de... Voilà, c'est le contre-exemple en fait, de ce qu'on peut faire lorsqu'on est une écrivaine noire. Hein, on peut le dire et ça marche. Il y en a d'autres, par ailleurs, que je ne citerai pas toutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a des stratégies très diverses qui font que ensuite se saisir de ce qui est écrit pour en comprendre quelque chose d'une généalogie, d'une forme de pouvoir et de la façon dont cette forme de pouvoir est contestée et mise à mal, si ce n'est mise à bas, c'est beaucoup plus difficile dans le contexte français. En fait, il y a dans les sciences sociales, par exemple, alors peut-être dans le domaine de l'art, c'est beaucoup plus évident, il y aurait des gens comme Françoise Vergès que vous pourriez mobiliser et qui, effectivement, sont... c'est quelqu'un qui articule différentes dimensions d'intervention. Mais à part les jeunes universitaires aujourd'hui, comme Maboula Soumaoro, comme Bentouami, par exemple, Ouria Bentouami. Il y a quelques femmes comme ça qui commencent à effectivement faire valoir des points de vue, qui sont des points de vue situés, et qui les assument et qui en proposent une articulation qui parle à leur lectorat. Mais finalement, il y a très peu de femmes qui s'autorisent de cette position-là, parce que c'est une position qui a déjà été contestée et qui a un coût académiques et universitaires, y compris pour des universitaires qui, par le passé, se sont dit, par exemple, historiennes et féministes, pour ne donner que cet exemple, et qui parlaient d'histoire, qui ne parlaient pas dans le champ des sciences sociales. Donc tous ces enjeux-là, aujourd'hui, sont particulièrement mis au travail, et la bibliothèque reste à constituer dans une large mesure, et surtout à susciter. Au fond, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des espaces dans lesquels on puisse, éditoriaux, des éditeurs, qui soit beaucoup plus en situation d'inviter ce genre de prise de parole et d'écriture.
Merci. Peut-être une toute dernière question.
Nous avons une très courte question qui appelle une courte réponse aussi ici.
Bonjour, merci pour me donner la parole. C'est justement pour poser exactement une question. On a débattu très formidable intervention. Mon question, c'est plutôt, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre les féministes qui se débattent, on sait, de l'école à l'Angleterre ou en France, par exemple, par rapport avec ces féministes qui se commencent à repenser, je pense, de manière particulière dans l'Amérique latine, par exemple, avec tout un processus social, culturel et politique des femmes qui se bougent et commencent à repenser même les féministes noires, les féministes blanches, entre guillemets, donc, et qui parlent même une proposition d'un féministe décolonial ou un féministe, en tout cas, autonome. Donc, je ne sais pas si vous pourriez un peu développer cette idée que vous avez évoquée. Merci.
So he wanted to know what your input on the question of the way feminism in Latin America, for example, and all the different political and social processes in Latin America had unfolded, and how we could eventually link black feminism, but also decolonial feminism and autonomous feminism to all these questions that you actually mentioned, and how all these different practices within political sphere, especially him coming from Latin America, how we could eventually draw some conclusions and some new links with cultural studies with all these different aspects of feminism.
That's a rather large question.
C'est une question assez vaste. Deux minutes pour répondre à cette grosse question. On est toujours en train de s'associer autour de débats, de problèmes. On lutte autour de problèmes. Donc pour moi, une des questions les plus importantes en Amérique latine, pour l'instant, à travers ce qui se passe au Brésil et le coup d'État au Brésil, mais c'est comment le pentecôtisme est une des religions les plus anti-femmes, finalement, en Amérique latine en ce moment, par exemple. Donc si on regarde à l'idéologie d'État, elle travaille de façon très puissante, et on a ça à Londres en ce moment. Donc si on parle des liens, c'est comment résister les incroyables religions mondiales qui veut absolument remettre les femmes dans la maison, qui veut les faire se résoudre à l'influence des hommes, au pouvoir des hommes, à se réduire au rôle de femmes mères seulement. En termes de décolonisation, il faut qu'on parle des particularités de la colonisation pour savoir comment résister. Donc la décolonisation, quand on parle de ça, c'est quelle forme, de quelle forme on parle, de quel état-nation, comment, et comment, une fois qu'on a établi tout ça, comment travailler. On peut peut-être connecter les choses, mais parfois il arrive qu'on ne les connecte pas.
Oui, très, très brièvement, malheureusement, mais moi, il me semble que nous ne sommes qu'au début de balbutiement dans le contexte francophone, de quelque chose qui, au fond, a traversé en même temps l'histoire de la France impériale, par exemple. C'est-à-dire que nous sommes dans une espèce de situation paradoxale où à la fois tout le monde semble découvrir que les approches post ou décoloniales, je ne rentrerai pas dans la distinction entre les deux parce que ça serait trop long. En même temps, il me semble que ce sont deux approches qui sont complémentaires l'une de l'autre et qui nous permettent d'aborder des questions qui sont souvent connexes. Alors, à la fois, il y a cette sorte de d'ébahissement, de sidération devant le fait qu'en France, il faudrait embrasser pleinement la question coloniale et ses suites dans un contexte que je décris pour ma part comme étant un présent colonial. Donc nous ne sommes pas au bout de nos peines de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il y a un véritable travail à la fois d'acclimatation théorique, empirique, de construction d'objets dans les sciences sociales à cet égard, et effectivement d'acceptation de luttes qui se situent dans cet espace-là et qui revendiquent cette perspective et cette approche décoloniale. Et puis par ailleurs, tout cela peut sembler éminemment dérisoire et surprenant au regard de ce qu'est l'histoire récente et ancienne de la France, c'est-à-dire une formation nationale, un État-nation qui s'est constitué centralement sur la double expérience de l'esclavage et de la colonisation et qui semble redécouvrir ce passé qui, en fait, n'est pas un passé, qui continue à imprimer toute une série de réalités. Donc que cela vienne par des femmes, notamment des femmes qui considèrent qu'elles sont dans une pratique décoloniale, à la fois militantes, professionnelles, qui entendent faire valoir cette posture-là et l'expliciter, c'est quelque chose qui aujourd'hui participe d'un vocabulaire qui est presque inaudible et qui doit être en quelque sorte appris, hein, réappris complètement, à partir non pas de larges appareils théoriques, mais à partir d'expériences partagées et qui aujourd'hui constituent un monde commun.
Merci beaucoup. Merci Beverly, merci Nassira pour vos contributions. Merci à tout le monde. On demande à toutes les personnes qui ont un casque de bien vouloir les remettre à l'une des deux entrées, enfin sorties en l'occurrence, de la salle. Et puis je pense que le colloque reprend à 14h30
avec voilà. La notion de populaire dans culture populaire.
Merci, bon appétit.